Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le 895 de Dio en ce jeudi 12 février 2015, deuxième jeudi du mois. Et c'est une sorte de nouveau rendez-vous qui est proposé sur le 895 de Dio. En tout cas, on reprend les bonnes vieilles habitudes puisque c'est une émission mensuelle qui vous sera désormais proposée le deuxième jeudi de chaque mois à midi, en rediffusion à 19h et le lendemain en matinale dès 8h. C'est le grand retour du Grémos qui était déjà bel et bien présent sur notre antenne sur cette saison 2014-2015, mais sur un autre créneau horaire. C'était un rendez-vous mensuel qui était proposé le jeudi à 18h et qui désormais repense son créneau des saisons passées à la mi-journée sur le 895 de Dio. Le Grémos, c'est le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, une émission mensuelle donc consacrée à la mémoire ouvrière locale. Et cette semaine, j'allais dire ce mois plutôt, c'est une émission consacrée à la crise dans le bassin stéphanois dans les années 50. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Jean-Michel Steiner et Antoine Vernet. Bonjour à vous, messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur l'antenne de Dio.
Merci pour votre accueil.
Et je vous laisse
aussi
bien sûr
chaleureux
la parole pour cette émission spéciale.
Bien, cette émission, donc, Antoine, elle va tourner autour de la situation du bassin stéphanois dans le début des années 50, une situation qui nous a intéressés à des titres divers tous les deux. Et le Grémos, bien sûr, comme vient de le rappeler Lionel, se préoccupe de la mémoire et de l'histoire ouvrière, mais de ce fait, il est bien obligé de se préoccuper de l'histoire industrielle. Alors, le bassin stéphanois est un bassin qui a été pionnier dans le domaine de l'industrialisation. Et on peut dire qu'il a été aussi pionnier dans le domaine de la désindustrialisation. Alors, pour beaucoup, cette désindustrialisation renvoie aux années 70-80, quand les grands fleurons que sont charbon, la scierie, le Manufrance, le cycle vont fermer à tour de bras. Mais on a constaté, toi et moi, et puis aussi, on peut le dire, dans la trace des travaux d'André Van, et de quelques autres auteurs qu'on citera à l'occasion, que cette crise est bien plus ancienne, en tout cas qu'elle se révèle grosso modo au tournant des années 52-53. Et de ce fait, ça nous semblait intéressant de mesurer cette crise et d'essayer d'en analyser les composantes.
Alors déjà, ce qui est important de faire, c'est d'avoir conscience qu'on est un petit peu aveuglé par l'expression inventée par Forastier de 30 glorieuses, qui semblerait indiquer que de 45 à 75, finalement, tout allait bien, on se mettait à produire en masse, à consommer en masse, mais finalement, de 30 glorieuses, c'est plutôt 20 glorieuses que l'historiographie maintenant commence à vraiment retenir, puisque dans un premier temps, la reconstruction se passe, puis une première crise, effectivement, qui a été particulièrement importante pour le bassin stéphanois au tout début des années 50, en gros jusqu'en 54-55. Et donc la France qui, en 55, va réussir à en sortir et à se lancer véritablement dans cette époque de modernité. Alors il faut faire attention avec cette idée, mais justement, c'est avec Mendès au pouvoir, on a vraiment une transition vers un nouveau modèle économique qui sous De Gaulle puis Pompidou sera beaucoup plus affirmé et dont justement ce sera la crise après le premier choc pétrolier. Mais donc ça, c'est une autre histoire finalement. Donc on va surtout vraiment s'intéresser aux causes de cette première crise assez importante finalement, mais qui tend à être oubliée par la mémoire collective, alors que justement les premières grandes faillites du cycle, les premiers grands licenciements, notamment dans la métallurgie, ont lieu à cette époque. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir.
Oui, et quand on lit la presse, notamment à partir des années 48-49, on constate qu'il n'est de cesse d'entendre parler de fermeture. Alors bien sûr, la presse militante, communiste en particulier, met beaucoup l'accent là-dessus, mais même la presse qui se place dans le sillage des hommes politiques à la tête du département, donc notamment Pinet et Bidault, même cette presse-là tire souvent la sonnette d'alarme.
Avec un mot d'ordre qui sera souvent repris dans les épisodes de crise, c'est la Loire, elle aussi veut vivre, elle aussi, faisant a priori référence quand même aux événements importants en Loire-Atlantique, à Saint-Nazaire notamment. Donc la priorité politique au niveau national était plus sur, sur ces difficultés industrielles-là, et la Loire avait, on va le dire encore, l'impression de passer un peu au second plan, un complexe d'infériorité qui explique aussi comment la crise a été gérée au niveau local. Donc c'est ce qui sera notre propos aujourd'hui.
Alors tu fais bien, je m'excuse d'interrompre encore, de souligner ce slogan, la Loire elle aussi veut vivre, parce que c'est quand même le slogan qu'on retrouve en 1980 dans la grande manifestation, la Loire veut vivre. Et donc on voit que 30 ans avant, ça existait déjà ce slogan.
D'où justement l'intérêt
de notre émission.
Parle au patron, ta tête est malade. Parle au patron, ta tête est malade. Oh, oh. Parle au patron, ta tête est malade. Parle au patron, ta tête est malade. Oh, oh. Chaque fois que tu veux de l'augmentation, chaque fois qu'on paie pas tes cotisations, chaque fois tu t'en vas parler au patron. Au patron, il ne t'entend pas, ne te comprend pas, il ne te voit pas, ne t'écoute pas. Mon pote ouvrier, le cœur tout brillé, je t'entends crier. Chaque fois que tu veux ton autogestion, chaque fois tu sais bien ton affreux patron. Chaque fois t'entends pas, te rends pour un pion. Pour un pion. Parle au patron, ta tête est malade. Parle au patron, ta tête est malade. Oh, oh, oh. Parle au patron, ta tête est malade. Parle au patron, ta tête est malade. Oh, oh, oh. Chaque fois que tu veux de l'augmentation, chaque fois qu'on paie pas tes cotisations, chaque fois tu t'en vas parler au patron. Au patron. Il ne t'entend pas, ne te comprend pas, il ne te voit pas, ne t'écoute pas. Mon pote ouvrier, le cœur tout brillé, je t'entends crier. Chaque fois que tu veux ton autogestion, chaque fois tu sais bien ton affreux patron. Chaque fois t'entends pas, te prends pour un pion. Pour un pion.
Donc on vient d'écouter un extrait de la bande originale du film de Jean-Yann, Moyen à vouloir des sous. Donc film qui s'attaque à la fois aux compromissions du capitalisme et aussi des syndicalistes. Donc un film qui tire sur tout le monde, qui ne date pas des années 50, mais des années 70, mais qui permettait justement d'introduire un peu la question des figures patronales dont on va parler abondamment. Donc on va commencer directement sur la situation du bassin stéphanois à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et de savoir est-ce que le bassin est encore l'arsenal de France, est-ce qu'il en a encore les moyens, est-ce que les politiques publiques le considèrent encore comme une ressource essentielle pour la défense nationale.
Oui, alors je crois qu'on peut dire, et je pense que tu seras d'accord avec moi, qu'il y a une vraie rupture avec la Deuxième Guerre mondiale. Alors sur le premier point, on n'a peut-être pas tout à fait le même avis, mais le fait que la campagne de 1940 a montré que la région stéphanoise n'était plus à l'abri d'une action de l'ennemi traditionnel venu de l'Est, ça c'est le premier point, mais je pense que ça a une certaine importance dans une certaine décrédibilisation de la région stéphanoise sur le plan stratégique, je dirais.
Avec même les bombardements italiens.
Alors le bombardement de 19 juin 40, puis oui, l'arrivée quand même, les Allemands sont arrivés au moment de l'armistice, ils étaient à Boutéon. Donc ça c'est la première chose. Alors, l'arsenal de la France, si on se place, il faudrait un petit peu de chronologie fine. Au moment de la libération de Saint-Étienne, c'est-à-dire grosso modo vers le 20 août 1944, et jusqu'à la fin de l'année, grosso modo, la région stéphanoise est la seule grande région industrielle qui est en état, entre guillemets, parce qu'il y a encore, il y aurait pas mal de nuances à faire, en état de fonctionner pour fournir de l'armement. Et d'ailleurs, il y a un véritable effort qui est mené pour fournir des armes à l'armée française qui est en cours de reconstitution. Mais bien sûr, c'est à une échelle bien inférieure de ce qu'elle a été pendant la Première Guerre mondiale.
Aussi par le fait que ce qui manque le plus, ce ne sont pas les machines ou les hommes, mais c'est les matières premières.
Alors, il manque les matières premières, beaucoup de matières premières. Il manque aussi de la main-d'œuvre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui sont prisonniers en Allemagne. Et puis, la différence par rapport à ce qui a pu donner cette impression, c'est qu'on a un élan politique, civique presque, pour cet effort de guerre, qui est en particulier bien sûr soutenu par le Parti communiste. Alors avec un appel à la production qui est lancé, relancé, la venue de Benoît Frachon dès le début du mois d'octobre 1944, la CGT qui s'implique à fond. Donc ça, c'est un point qui me semble important, mais qui va s'avérer un feu de paille.
Puis il y a peut-être une illusion des acteurs du bassin sur les capacités réelles. Je vais juste citer une phrase d'un historien qui a travaillé sur la sidérurgie en France, qui est Philippe Mioche, qui explique. Donc la région, berceau de la grande sidérurgie française, présente jusqu'aux années 50 une structure éparpillée en nombreuses entreprises de taille moyenne, gérées par des dynasties familiales héritières d'une longue et glorieuse tradition de savoir-faire. Par ailleurs, éloignée des combats de 14-18 et quasiment épargnée par ceux de 39-45, elle a conservé son équipement industriel, voilà, lequel est par conséquent fort âgé et largement obsolète.
Oui, c'est tout à fait. Il y a un vieillissement évident de l'équipement. Ça, c'est sûr. Je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi cet élan politique et civique, et en réalité, on pourrait presque parler d'une unanimité autour de l'effort de guerre, et on se rend compte très vite que cette unanimité est fragile. Parce que les Stéphanois, comme les Français qui sont libérés au fur et à mesure, attendent de la libération la fin des restrictions, la fin des rationnements. Or, ils se trouvent confrontés à une réalité qui va s'avérer beaucoup plus difficile, puisque les derniers tickets de rationnement sont supprimés en 1949. Et dès le mois de février 1945, il y a des manifestations pour améliorer le ravitaillement. Au mois de mai, il y a la CGT, qui pourtant avait essayé d'empêcher que le 1er mai soit une journée de lutte, a été obligée d'accorder une journée de 24 heures de lutte. C'est-à-dire que même si la CGT est majoritaire et puissante, il y a aussi des voix qui se font entendre pour que l'on prenne en compte aussi les besoins de la population, notamment à l'intérieur de la CFTC.
Et dans le même temps, la situation économique reste difficile parce que les productions locales, que ce soit le charbon, l'acier ou les constructions métalliques par exemple, restent particulièrement peu compétitives. Les prix de revient sont très élevés, alors en raison de diverses raisons, notamment la dépendance avec la nationalisation des houillères, le fait qu'il n'y a plus de concurrence sur le prix des charbons, les prix de vente des productions industrielles sont fixés, sont contrôlés par l'État. Également le fait que le transport ferroviaire nationalisé, les prix sont très élevés, donc il y a déjà une demande de libéralisation de la part du patronat local, et dans le même temps toujours protégez-nous de la concurrence lorraine, de la concurrence étrangère, etc. Donc c'est pas évident déjà.
C'est le double discours dont on va parler beaucoup autour du comité d'action tout à l'heure.
Et ce qui fait tenir en partie la région, finalement, c'est d'abord l'effort de reconstruction et ensuite la poursuite de l'effort de guerre qui va être jusqu'en 50-51, parce que la France et le bassin stéphanois en particulier vont alimenter l'armée américaine pendant la guerre de Corée, et ce qui permettra quand même de maintenir un taux d'activité et de repousser la période de reconversion des industries de guerre.
Oui. Et en même temps, puisque tu vas jusqu'en 51, je crois qu'il faut dire, ce serait peut-être le troisième volet de cette présentation de l'après-guerre, c'est que même si l'image de Saint-Étienne, ville rouge, est ancienne, je sais que c'est encore un objet de discussion entre nous, qu'elle remonte au moins à la Première Guerre mondiale avec les grèves de 17, mais sans doute un petit peu avant, avec les grèves du Chambon 1910. Il n'empêche qu'à mes yeux, les grèves de 47 et 48 ont révélé que cette ville était sans doute dangereuse pour les investisseurs. Dangereuse. Et si tu ajoutes à ça le fait que la CGT et le Parti communiste mènent une véritable action contre l'armement dans le cadre du mouvement pour la paix, enfin contre la bombe atomique. En 50-51, il y a des manifestations autour de l'arsenal de Roanne et dans la région stéphanoise aussi, qui font que la Loire devient un département qui n'enthousiasme plus beaucoup les décideurs.
Alors les décideurs économiques, les détenteurs du capital, on pourrait dire, mais également les décideurs politiques au niveau national. À partir de 1947, justement, on a l'action du commissaire général au plan qui va être mis en place en parallèle du plan Monnet, et dans la continuité également le plan Marshall qui va venir aider à financer la reconstruction française. Et ce sont des plans qui vont finalement très peu investir dans la région stéphanoise parce que l'État juge que l'appareil productif est donc obsolète, que les méthodes de travail sont largement dépassées. On est loin d'être une région taylorisée à l'époque. Manu France est vraiment une exception à la règle. Et donc finalement, il va y avoir des incitations qui vont être mises en place, notamment pour la sidérurgie, pour les encourager à se concentrer. Mais il y a un refus absolu des maîtres de forge. Et du coup, plutôt que de financer à perte les activités industrielles de la région, l'État va dire « débrouillez-vous, nous on va soutenir plutôt la Lorraine, qui est une région beaucoup plus dynamique. » Et finalement, il y a déjà le début d'un sentiment d'abandon qui a lieu à ce moment-là.
Je crois que ton constat est tout à fait juste. Un sentiment d'abandon, on appelle à la fois au secours et en même temps on ne veut pas faire les efforts nécessaires. C'est une espèce de discours schizophrénique qui va marquer longuement la région. Je voudrais simplement revenir sur une précédente émission dans laquelle René Commère avait présenté son livre avec Maurice Bedouin, Mémoire d'Assion Ondaine, et où il listait justement un certain nombre de faiblesses de la région, donc l'enclavement géographique. Ça a été une protection pendant un temps, ça devient véritablement un problème.
On peut juste rappeler les nombreux et illusoires projets de percement de canal, de Givors jusqu'à la Loire,
de tunnels sous le rond-point, enfin
promu notamment par les industriels et commerçants présents à la chambre de commerce de la fin du 19e jusqu'aux années 20 encore. On pense qu'on peut faire ce canal et une concurrence avec le PLM, la compagnie ferroviaire, qui refuse justement de perdre un monopole sur le transport ferroviaire.
Bon, il y a du coup les prix de revient élevés, le sureffectif dans certains ateliers. Il montre justement le poids du vieillissement du matériel.
Je me souviens d'un exemple qu'il donne, c'est les poudleurs, ceux qui brassent l'acier fondu, qui était une grande innovation au milieu du 19e, mais qu'on retrouve encore au début des années 50 dans les aciéries de Londres, effectivement, et on expliquait qu'on les laissait là tranquillement, mais qu'ils ne servaient plus à rien.
Oui, du coup, on a des métiers qui sont extrêmement spécialisés et qui refusent la polyvalence. Donc des gens, effectivement, qui travaillent dans des conditions qui deviennent, comment dirais-je, difficiles au point de vue de la trésorerie. Il y a les concurrences nouvelles, donc tu as parlé de la Lorraine, et je crois qu'il faut dire que les États-Unis vont beaucoup pousser dans le sens d'investissement plutôt en Lorraine, parce qu'on est proche du bassin de la Ruhr et qu'il y a une cohérence géographique dans le cadre de la construction de l'Europe.
Ce qu'on appelle aujourd'hui la grande région.
Voilà, la grande région. Un manque de savoir-faire commercial
très très important, voilà.
Et puis deux choses donc sur lesquelles je pense que tu vas revenir: la subordination de la région par rapport à un pouvoir qui se situe de plus en plus loin, d'abord Lyon, ensuite Paris, Et puis, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire un préjugé politique défavorable, René Commère montrait bien comment, dans certaines situations, dans les années 60 et 70, il y a des investissements qui ne se sont pas faits pour cette raison.
Et du coup, donc, on a un bassin qui vieillit, avec des activités qui sont toutes issues de la première industrialisation, donc sur la première moitié du 19e. La dernière activité finalement qui est apparue en masse, c'est le cycle. C'est quand même pas une activité forcément appelée à connaître de très grandes heures encore, on pourrait à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, mais ça on va pouvoir l'évoquer largement. Et du coup, on a sur la question du capital, on a deux types de patronat. Ça, c'était la thèse sur le 19e de Nicole Vernet-Caron, donc le ruban et l'acier. Et finalement, donc, on a et les charbonnages et la sidérurgie, les houillères, c'est avec la nationalisation et donc une concentration et une soumission à l'état de la production. Et la sidérurgie, ce sont des capitaux parisiens, des sièges sociaux parisiens. Et finalement, les patrons, les directeurs des entreprises sidérurgiques ont un pied à Paris, un pied dans la Loire, et sont souvent quand même plus près des considérations politiques et stratégiques de Paris. Et donc il y a une différence assez importante avec ce qu'on peut qualifier de patronat local, alors que ce soit dans le textile, dans les armes, dans le cycle, la construction métallique, mécanique, oui, etc.
La boulonnerie, la limerie.
Oui, tout ça. un petit patronat beaucoup plus traditionnel et très, très typique du bassin. Et donc...
Et souvent issu du milieu ouvrier, d'ailleurs.
Oui. Alors, pas toujours à ce moment-là, mais disons qu'il y a...
Un héritage.
Il y a toujours un moment où l'ouvrier de métier a réussi à monter sa propre boîte, voir son atelier. Et parfois, on a des réussites industrielles assez intéressantes. Pas forcément des réussites commerciales. Ça, tu viens de le signaler. Et du coup, cette différence entre un patronat très ouvert aux idées... en vogue, type productivité, un patronat qui participe au commissariat, au plan, donc comme la sidérurgie, va se rendre compte beaucoup plus tôt de la situation difficile et de la nécessité de moderniser et de concentrer le tissu industriel. Et donc pour la sidérurgie, si en 1947 il y avait eu un refus des vieux maîtres de forge type Chollat ou Laurent à Saint-Chamond de concentrer les entreprises, en 1952-1953, il va y avoir une prise de conscience de leur part, la nécessité justement de la fusion, qui va se faire un peu accidentellement, mais qui va être finalement assez salvatrice, et donc qui va constituer la compagnie des ateliers et forges de la Loire, la CFL. Et ce qui a été je reprends la phrase du DG de la compagnie, Marcel Macot, qui dit qu'il y a eu un coup de pied au derrière qui a ouvert les yeux. C'est le plan Schuman et la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc à ce moment-là, la perspective de la concurrence allemande leur fait se dire qu'il faut réagir, qu'ils sont dépassés. Et quand ils voient également la situation en Lorraine, ils sont vraiment dépassés. Donc l'idée, c'est de concentrer les quatre entreprises que sont les aciéries de la Marine, aciéries de Saint-Étienne, aciéries de Firminy et Jacob Holzer. Simplement, les Marel à Rive-de-Gier qui va rester en dehors de cette fusion. Et du coup, une mise en commun des moyens, une restructuration, d'importantes subventions pour éviter les licenciements, même un chantage à l'emploi qui est fait à ce moment-là, donc des subventions et du gouvernement et de la communauté européenne du charbon et de l'acier qui sont importantes. Et il va y avoir le début d'une restructuration de l'entreprise, mais qui ne sera jamais totale. Il y aura les inerties, finalement, les défauts. Ces entreprises vont perdurer malgré la fusion.
Ouais. Donc ça nous donne une prise de conscience brutale, on va dire en 52-53, aggravée par le fait que c'est aussi le moment où on ferme les premiers puits de la vallée du Gier. Le charbon, l'acier sont touchés par des fermetures, des concentrations et des licenciements. Et cette prise de conscience, elle va conduire donc... à la mise en place du CARS.
Pas tout de suite. Enfin bon. Non, ce qu'il faut vraiment rappeler surtout, c'est que la période 51-54 pour le bassin stéphanois, c'est celle où toutes les principales industries vont tomber en récession les unes après les autres. La préfecture a bien fait son travail. On a une chronologie complète de ces ralentissements. Alors d'abord, ce sont les rubans, dès le deuxième trimestre 51, ensuite la soierie, ensuite le cycle, les armes, la mécanique générale, les houillères et la sidérurgie. Donc en une année à peu près, un an et demi, chaque industrie mère, pour reprendre la vieille expression qui était... et de Gras qui était
de Gras aussi,
secrétaire général de la Chambre de commerce il y a fort longtemps, toutes ces industries mères vont se casser la figure les unes après les autres, et du coup les perspectives commencent à être assez terribles. Forcément les conséquences, c'est le chômage. Le chômage partiel se développe d'une manière assez importante. On tombe à 32 heures de travail, la moyenne à l'époque c'est 40 heures. Même donc plus, 32 plus, oui, plus souvent 46, plus ouais. Oui, c'est la moyenne légale. On est souvent à 44-48, même dans pas mal d'entreprises, et donc 32 heures de travail, ça indique vraiment une difficulté à des carnets de commandes qui sont vides. On a des exemples de 20 heures hebdomadaires aussi dans certaines entreprises, donc c'est assez important. Les chômeurs complets, entre 51 et 53, il y a un triplement du nombre de chômeurs. Donc sont les étrangers, les femmes, les non qualifiés qui sont les premiers touchés. Et la perspective en fait de 54, elle est vraiment terrible, parce que on a des faillites. Les aciéries du Nord à l'Orme sont en faillite, ce qui est une catastrophe pour tout le bassin, puisque il y a des dettes très importantes et des commandes qui ne sont pas honorées. À Rive-de-Gier, Desflacieux, qui produit du matériel ferroviaire, ferme. CG Dur, toujours à Rive-de-Gier, restructure son usine de Couzon, donc ils produisent, ils laminent de l'aluminium et ils liquident une grande partie du personnel. Brunon Valette annonce de grands licenciements. D'autres entreprises sont en difficulté dans le cycle, dans la boulonnerie de Londaine, la lime aussi. Et on rappelle simplement que la CFL fait un chantage à l'emploi à ce moment-là également. Et dernière catastrophe annoncée, la manufacture d'armes de Saint-Étienne, la MAS, qui annonce qu'elle va licencier du personnel, puisque les industries de guerre sont terminées, on ne produit plus pour la Corée, il faut absolument restructurer la Manu. Et donc là, il y a vraiment une prise de conscience de la catastrophe qui s'annonce. On est à la fin de l'année 53.
Voilà. Moment où, dans l'histoire, dans l'historiographie, dans la mentalité collective, on parle on se lance dans l'expansion, et on a parlé ensuite des Trente Glorieuses, société de consommation, et société de consommation en particulier évoquée dans la chanson de Boris Vian, La complainte du progrès.
La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille: ah Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas limace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou. La tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
À Boris Vian, donc, la complainte du progrès. Et la complainte dans la région stéphanoise, elle retentit à peu près à la même époque, c'est une chanson de 56. Et donc en 53-54, tu as nous adressé un tableau assez noir de la situation économique stéphanoise. C'est un tableau qui est en particulier mis en avant par un préfet, le préfet Dumont, qui a été nommé en 1951, qui a pratiquement tenu la préfecture pendant toute la décennie des années 50. Et c'est un préfet qui a essayé d'appeler au secours un comité d'expertise.
Alors, ça commence donc fin d'année 53, la Chambre de commerce se rend compte de la catastrophe en cours, et donc son président, qui est Antoine Roche, un ancien patron de Houillères, vient voir le préfet Dumont, donc Pierre Dumont, et lui dit qu'il faut faire quelque chose absolument. Donc le préfet, très au courant des politiques publiques à l'époque forcément, décide justement de mettre en contact les industriels locaux avec le commissariat au plan. Donc il y a une grande réunion en décembre 53 à la Chambre de commerce. Le commissaire adjoint au plan, Hirsch, va même venir donc pour présenter des solutions pour investir dans la modernisation de l'équipement, encourager à la reconversion des activités. Et donc il y a vraiment, je crois qu'il y a 200 industriels à peu près à cette réunion, donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme. Ça permet justement d'échanger un petit peu les idées. Les administrations voient un peu l'état d'esprit local. Sauf que toutes les belles solutions qui leur sont proposées, donc sur le fait d'emprunter, de recourir à l'emprunt, ce qui n'était pas du tout la pratique locale pour moderniser l'équipement, 6 mois après, il ne s'est rien passé. Donc ils sont encore en train de se demander, est-ce qu'on doit investir, est-ce qu'on doit s'endetter, ça coûte cher, etc. Donc il y a une petite désespérance du préfet. Que faire ? À ce moment-là, il y a une belle coïncidence qui arrive en la personne d'un inspecteur des finances qui est envoyé par le ministère de la Reconstruction pour faire une enquête industrielle sur les perspectives d'équipement industriel de la plaine du Forêt. Donc, ils se rencontrent, ils discutent, et le préfet, a priori, est séduit par cet inspecteur des finances et se dit qu'il va profiter de l'occasion, de sa présence, sa mission, pour le charger justement d'aiguillonner un petit peu l'effort des industriels et des commerçants locaux. Donc cet inspecteur des finances, lui, il s'appelle Jacques de Chalindard, et il discute, il se renseigne un petit peu sur ce qui se fait ailleurs, et ce qui existe, c'est un modèle qui s'appelle les comités de mise en valeur. En gros, dans des régions économiques, c'était le cas à Reims, c'était le cas en Lorraine, à Strasbourg, etc., les élites locales, donc des professeurs d'université, des industriels, des journalistes, etc. Donc plein de personnes impliquées vraiment dans la vie de leur région se réunissent dans une association et discutent justement des possibilités d'équipement, de modernisation du potentiel économique des régions. Donc le préfet Dumont et Chalindard arrivent à la conclusion que c'est ce qu'il faut faire pour le bassin stéphanois. Et du coup, en juin 54, ça va être proposé à différentes personnalités locales de s'impliquer.
Alors, juste un point. Il faut rappeler quand même que la région stéphanoise, contrairement à celle que tu viens de citer, ne dispose pas de ces structures d'expertise. Il n'y a pas d'université.
Non.
Et ça, c'est un point important dans l'histoire du dé.
Parce que les sociétés savantes, hein, c'est un peu de ça que ça repose. Il y en a assez peu qui sont actives. La plus active, c'est la société de l'industrie minérale qui est liée à l'école des mines. Mais sur la question de l'expertise économique, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien.
Et puis on voit qu'il y a aussi sur la question de l'expertise sociologique, puisque c'est à cette époque-là qu'est créé le CRESAL.
Oui, mais ça c'est effectivement ce qui va expliquer aussi l'activité du comité dont on va parler juste maintenant. Donc l'idée de ce comité de mise en valeur est lancée. On va voir Pinet dit bon, faites ce que vous voulez, mais c'est pas vraiment ça ne l'intéresse pas spécialement. Mais il n'y a pas d'opposition, puisque le président de la Chambre de commerce, lui, est très favorable à cette solution. Et du coup, donc, on met en place ce comité, donc il va s'appeler le comité d'action de la région stéphanoise, le CARS. Le vrai nom est un peu plus long, mais on va pas s'embêter avec ça. Et donc, du coup, on va appeler donc, des personnalités locales à siéger soit dans la commission principale, soit dans des petites commissions, type commission industrielle, commission agricole, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça a été une activité très importante aussi, une commission formation, des groupes de travail par profession, le chocolat, l'alimentation va avoir son groupe de travail, la sidérurgie, les crayons aussi, la boulonnerie, etc. Donc vraiment, il va y avoir tout un tas de commissions qui vont être organisées.
On fait se rencontrer des gens qui ne se rencontraient pas tellement avant.
Alors, on fait se rencontrer des professionnels, des représentants des banques, qui sont pour la plupart nationalisées à l'époque, donc ils sont vraiment en lien avec l'État, des représentants des administrations, type direction départementale de la reconstruction.
Direction des finances.
Donc il y a vraiment, on ne peut pas faire la liste parce qu'elle est vraiment trop longue. Et donc, on fait en sorte que les gens se parlent.
Pas de syndicalistes.
Alors, ça, c'est toute la question, c'est tout l'enjeu de cette commission. C'est que le préfet, dans son idée, voudrait justement que les syndicats participent. Donc, il va correspondre avec, non pas directement les organisations syndicales. Il sait très bien qu'avec, par exemple, la CGT, il se verra opposer à un refus immédiat. Il va tenter d'être plus subtil et s'adresser directement à des individus. Alors la CGT, il va s'adresser au secrétaire du syndicat des métaux de la CGT qui s'appelle Jean Roussillon. Roussillon va consulter l'UDE, l'UDE va refuser. Bon, pas de surprise.
Mais juste un mot, c'est quand même intéressant parce que 10 ans auparavant, le PC et la CGT poussaient à ce genre de structure. De concertation entre patronat et syndicat, mais c'était l'époque où les communistes étaient au pouvoir.
Oui.
Donc il y a quand même un retournement qui est intéressant et qui est lourd de sens.
Il y a deux raisons. La première, c'est que tout ce qui vient de la préfecture vient de l'État, et c'est l'impression que ça vient des trois ministres, de Pinet et Bidault en particulier, donc ça, c'est hors de question pour eux. Et l'autre explication, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils vont aller servir la soupe au patronat. Donc ça, c'est hors de question pour eux. Deuxième grand espoir, c'est le secrétaire de l'Union régionale des métaux, là encore, de la CFTC, Braillet. Alors, il y a un vrai espoir du préfet que la CFTC participe, parce que dans la Loire, donc, c'est la reconstruction qui tient l'UD, et dans reconstruction, on a des gens qui sont très impliqués dans ces questions, justement, de redéploiement économique.
Reconstruction, qui est la tendance qui milite pour la déconfessionnalisation de la CFTC.
Avec, comme tête de pont, Marcel Gonin, qui a son importance,
même Garnier.
Et André Garnier aussi, effectivement, il y a tout un réseautage dont on va parler dans un instant. Et donc, il y a vraiment un espoir, pour certaines raisons, que Braillet participe, et finalement, la CFTC refuse pour les mêmes raisons. Du coup, qui va participer au comité? Le secrétaire du syndicat des métaux de FO, Marcel Chauss, qui a un parcours un peu singulier, mais assez typique dans la région des syndicalistes FO, c'est des anciens de la JOC, qui auraient pu donc être plus aptes à rejoindre la CFTC, mais qui finalement ont composé le noyau dur de FO à l'époque. Et il y aura un représentant de la CGC aussi qui sera impliqué dans le CARS. Sur les autres grandes figures qu'on retrouve dans ce comité, on doit citer donc principalement une figure assez paradoxale, c'est celle de Jean Queneau. Jean Queneau, pour expliquer rapidement, c'est un polytechnicien, donc quelqu'un qui était promis à une belle carrière militaire, mais qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, va quitter son corps et va aller ce qu'on appelle pantoufler, donc au sein de la Compagnie nationale du Rhône, et qui va quitter cette magnifique carrière qui s'annonçait à lui dans cette entreprise, pas pour pas débaucher à prix d'or par la concurrence, mais simplement par sens du devoir. Il va aller rejoindre son beau-père, Maurice Thuan, dans son entreprise stéphanoise, et il va devenir son numéro 2.
D'accord.
Et le rôle de Queneau va être primordial, et vraiment il a vraiment été un pivot de toute l'histoire socio-économique des années 50-60. Alors, j'explique rapidement. Queneau, quand il était à la CNR, à Lyon, a rencontré un personnage très important qui s'appelle le père Louis-Joseph Lebray. Lebray est le fondateur de l'association Économie et Humanisme, donc une association, on pourrait dire, proche d'une revue comme Esprit, par exemple. Oui. Vraiment un des piliers du catholicisme social, impliqué dans les questions urbaines, de logement, etc. à l'époque. Donc Queneau va être séduit par Économie et Humanisme, il va s'y impliquer de manière importante. Alors contrairement à d'autres, c'est pas quelqu'un qui va proposer des solutions, mais c'est lui qui va être en gros le trésorier de l'association, qui va la faire tourner pendant 30 ans.
Est-ce que tu viens d'évoquer quelque chose d'intéressant qui fait peut-être la spécificité du problème dans la région stéphanoise, c'est le lien entre cette industrie qui est en crise et puis la question du logement, qui est extrêmement aiguë, qui se pose de façon très grave. Et dans la note d'intention qui est envoyée à Chalandard, là, le document que tu m'as montré, il y est bien fait une relation entre crise de logement et problème de l'industrialisation, du retard de l'industrialisation.
Et ça, c'est l'action d'Économie et Humanisme depuis 1946. Il y a une grande enquête logement qui est lancée par le ministère de la Reconstruction. Et donc Économie et Humanisme va faire des enquêtes à Lyon, à Saint-Étienne, à Marseille, à Nantes.
Oui, puis il y a la thèse de Cellier qui va jouer un rôle important.
Oui, mais qui reprend les éléments de l'enquête. Et du coup...
Et puis il y a le rôle de Claudius Petit, excuse-moi de te couper.
C'est à ce moment...
Qui est quand même un des grands hommes politiques du département.
Qui est ministre de la Reconstruction en 1948. Ouais. Et donc finalement, Queneau connaît Claudius Petit par exemple. Il y a un vrai réseautage qui se met en place. Et la figure de Claudius Petit, en 1953, il quitte le ministère. Il va y revenir quelques temps, mais...
Non, mais il est élu maire de Firmini cette année-là.
Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est très favorable à toutes ces idées d'aménagement du territoire. C'est ce qu'il a lancé, de logement. Et du coup, il y a une sorte de réseau qui se met en place avec Queneau, qui est ami avec Marcel Gonin. Et par le biais d'Économie et Humanisme, il y a d'autres ressources, type André Garnier, qui est aussi impliqué dans ces affaires-là. Et donc une sorte de petite nébuleuse catholique sociale qui se met en place et qui va être finalement le moteur de ce comité d'action de la région stéphanoise.
Donc il est bien marqué, c'est ça qui est intéressant, entre la CGT communiste d'un côté et un patronat de droit divin très catholique conservateur, ce milieu du catholicisme social qui essaye de faire changer les choses.
Voilà.
C'est ça qui est intéressant, je crois, à bien noter.
Et donc, toute l'action du comité va être sur cette question de la modernisation du bassin et avec la question du logement qui est derrière. Alors, tu parlais de Claudius Petit. Claudius Petit n'a pas vraiment été impliqué dans le comité parce qu'il vient d'arriver à Firmini et lui, il a son grand projet.
Ouais.
Et finalement, il ne pense qu'à sa ville et à son projet. Donc, il ne va pas s'investir dans le CARS. Et c'est dommage, d'ailleurs. C'est peut-être une des raisons de son échec. Et il va plutôt privilégier donc, sa ville, notamment pour l'aménagement industriel. Il va faire les choses dans son coin. Donc c'est vraiment une première occasion manquée ce moment-là.
Ça permet de souligner quand même, que c'est une des grandes faiblesses de la région, mais ça va durer longtemps, c'est cette rivalité entre communes et l'impossibilité de construire quelque chose à l'échelle de l'ensemble du bassin. On voit par exemple Fléchet qui est... élu de Chazelles-sur-Lyon, qui essaye de tirer une partie de la couverture à lui. Claudius Petit, tu l'as dit, dans le cadre de sa commune. Pinet, qui est quand même président du conseil général, mais qui œuvre plutôt pour la vallée du Gier, voire plutôt que pour Saint-Chamond. Ben, il y a un refus de voir les choses à l'échelle de l'ensemble de la région.
Et la principale cause de l'échec, ça va être un projet de Chalindard, très novateur, et dans le cadre de sa mission pour le ministère de la Reconstruction, c'est un projet de ville nouvelle dans le sud de la plaine du Forêt. Ça aurait été une fusion d'Andrézieux, de Boutéon, de Saint-Just, de Saint-Rambert, etc.
Et une communauté de communes, en quelque sorte.
Oui, oui, c'était très novateur pour l'époque. Et donc, l'idée, c'était de faire trois ponts sur Loire. Ouais. Et donc, cette idée de trois ponts sur Loire, ça aurait été de profiter de tout l'espace disponible pour faire venir de nouvelles industries, de la plasturgie, par exemple, ou des industries plus liées à la chimie aussi, qui manquaient. Donc, vraiment, il y avait d'autres projets, Ford, Pâté Marconi, qui ont été évoqués. Donc, il y a vraiment eu plein de tentatives de faire venir de nouvelles usines, ce qui n'a pas réussi. Et donc, celui qui a provoqué la chute du CARS en particulier, c'est le maire de Saint-Étienne, de Fraissinette. C'est-à-dire qu'au départ, pour lui, la perspective, on veut moderniser le bassin, on veut venir des entreprises à Saint-Étienne. Il est très content. Bien. Sauf que quand il s'aperçoit qu'on veut aménager à 10 km de chez lui et faire venir les entreprises là, forcément, il le prend assez mal et il va être le principal adversaire du comité. Et c'est lui qui va en précipiter la perte à la mi-55.
Donc en fait, il y a des freins politiques, on vient de les citer, patronaux. Tu rappelles dans l'article que tu es en train de publier là, que le questionnaire qui est mené par Chalandard pour la création du CARS est plus ou moins vécu comme une espèce d'enquête fiscale et qu'on est en pleine période de montée du mouvement Poujade, pas l'oublier, 54-55. Donc même si son influence est réduite dans le bassin stéphanois, ce qui reste quand même à prouver, parce que en tout cas, il est surtout il est présent dans la région dont tu parles, Saint-Rambert, tout ça, là, il y a une très forte poussée.
Montbrison notamment.
Voilà. Et puis les firmes qui refusent de s'implanter. Alors justement, une question à propos de Ford, à propos de Pâté Marconi. Est-ce qu'on a des documents par lesquels ces firmes expliquent pourquoi elles n'ont pas voulu venir?
Ah, ça, je n'ai pas trouvé.
Ça, ce serait intéressant.
Dans sa thèse d'État, Vent explique justement que le patronat local fait tout pour ne pas avoir une concurrence qui vient débaucher la main d'œuvre à prix d'or.
Donc on rejoue l'épisode de 1929 et de l'usine d'aviation.
Oui, donc il y a vraiment les routines, voilà. Finalement, restent. Dans l'échec de ce comité, ce qui est le plus extraordinaire, c'est de voir qu'il y a eu un espoir démesuré au départ. C'est-à-dire que tout le monde pensait que ça serait une solution miracle. Et quand on commence à leur proposer les différentes méthodes, la concentration, la mutualisation des moyens de commerce, la reconversion, il va y avoir quelques tentatives, mais ça va foirer à chaque fois, pour la même raison, c'est que les entreprises n'ont pas envie, les patrons n'ont pas envie de lâcher leur affaire.
On accepte les sacrifices à condition que ce soit les autres qui les fassent.
L'exemple typique, c'est une concentration dans le cycle. Ça s'appelle la Cosimo. Il y a 6 entreprises qui fusionnent. Donc ça fait potentiellement une très, très belle entreprise. Et le problème, c'est qu'il y a 6 patrons. Enfin, 5. Il y en a un qui part, c'est pas très grave. Et du coup, les 5, en fait, ne vont jamais s'entendre. Et chacun va repartir de son côté. Ça, André Vent, quand il part du cycle, montre vraiment l'échec absolu que ça a pu être.
Bien. On va voir justement avec Jean-Roger Cosimo que le tango, c'est aussi un pas en avant et deux pas en arrière.
Le temps du tango. Moi, je suis du temps du tango, où même les durs étaient dingos de cette fleur du guinche exotique. Ils y paumaient leur énergie, car abuser de la nostalgie, c'est comme l'opium sans la toxique. Costume clair et chemise blanche dans le sous-sol du Mikado. J'en ai passé des beaux dimanches, hein, des belles venaient en avalanche et vous offraient comme un cadeau. Rondeur du sein et de la hanche, hein, pour qu'on leur fasse danser le tango. C'est mon blafond, pas vous tromper, c'était de la belle petite poupée, mais pas des filles ni des mondaines. Et dame, quand on a travaillé 6 jours entiers, on peut se payer d'un cœur léger une fin de semaine. Quand par hasard, sans manière, le coup de béguin venait bientôt, elle se donnait, c'était sincère. Heureux, oh, ce que les femmes ont pu me plaire, et ce que j'ai plu, j'étais si beau, j'étais... Faudrait pouvoir faire marche arrière, être comme on le fait pour danser le tango. des tambours, y en avait des tas, mais moi je préférais Violetta, c'est si joli quand on le chante. Surtout quand la boule de cristal balance aux quatre coins du bal, tout un manège d'étoiles filantes. Alors c'était plus Valentine, c'était plus Loulou ni Margot, dont je serrais la taille fine. Ine, c'était la reine de l'Argentine, et moi j'étais son Hidalgo. Œil de velours et main calie, Ine, oh ce que j'aimais dans ce tour. Mais doucement passent les jours, adieu la jeunesse et l'amour, les petites mômes et les je t'aime. On laisse la place et c'est normal, chacun son tour d'aller au bal, faut pas que ça soit toujours au même. Le cœur, ça se dit corazón en espagnol, dans le tango. Et dans mon cœur, ce mot résonne. Homme mais sur le boulevard en automne, en passant près du Mikado. Je ne m'arrête plus, mais je fredonne. Ah, la, 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 la. C'était Bat, le temps du tango.
Alors Antoine, est-ce que le Cars a été le bel Hidalgo de la région stéphanoise?
Alors ça a été vraiment l'occasion manquée. Parce que 55, c'est toutes les bonnes volontés, les belles idées partent en lambeaux. Le patronat de la métallurgie se déchire. Bon, il y a des questions de salariales derrière. Mais en gros, les petits patrons de la boulonnerie, du décolletage, se fâchent avec le directeur, le président de la SMPL. Et vraiment, tout ce qui avait tenté d'être mis en place s'écroule tout de suite. Il faut rajouter qu'il y a un nombre de licenciements et de faillites qui vont quand même avoir lieu dans le cycle. Rava, Moncoudiol font faillite. Automoto devient une filiale d'Indénor. C'est vraiment intégré.
Oui, André Vent montre bien ce naufrage du cycle dans ces années 56,
malgré les tentatives, 59. Le cycle avait vraiment une tentative de le revivifier et ça rate pour des raisons diverses, donc dont Vent parle beaucoup mieux que ce qu'on pourrait faire maintenant. 55, Brunon Valette licencie des centaines d'ouvriers. La Chalet-Assière, la SFAC aussi licencie par surprise et ferme des ateliers. Donc finalement... le CARS montre qu'il n'a pas pu être efficace. Bon, c'était pas possible en si peu de temps, mais finalement, pourquoi s'embêter alors que ça n'a pas marché, ça n'a pas provoqué de miracle. Et en plus, 55-56, c'est le moment de la reprise économique. Là, on va rentrer dans les vins glorieuses, véritablement. Donc, le patronat stéphanois se dit on va faire quelques efforts de notre côté, on va moderniser l'équipement. Ça marche un petit peu, mais ça va repartir comme avant, quoi. Ouais. On va prendre 5 à 10 ans de retard.
Puisque oui, ça anesthésie complètement. Là.
Par exemple, Boutéon, la zone industrielle à Boutéon, donc on en parle en 54, et les travaux commencent en 64. Donc ça veut à peu près tout dire.
Oui. Et donc, une belle occasion manquée, on rajoute ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la question des rivalités entre communes. Et aussi, ce qui me tient à cœur et ce qui te tient surtout à cœur à toi, c'est-à-dire, je crois, ce que tu es en train de montrer dans les travaux pour rédiger ta thèse, l'importance qu'a pu représenter la formation professionnelle. Alors, j'ai signalé tout à l'heure l'absence d'université dans une région qui était quand même industriellement en pointe dans tout le 19e siècle.
7e agglomération française.
Voilà. Une école des mines qui s'intéresse finalement pas tant que ça au devenir économique de la région. Donc c'était le seul établissement d'enseignement supérieur. Et donc, est-ce que tu peux nous brosser rapidement les principales conclusions auxquelles tu arrives pour l'instant concernant la question de la formation professionnelle?
La formation mène à tout quand on l'étudie. Donc ça, c'est vraiment ce qui sous-tend ce qu'on a présenté aujourd'hui. En fait, pendant longtemps, on va former des ouvriers qualifiés, des contremaîtres, notamment à l'École nationale professionnelle de Saint-Étienne ou dans les écoles pratiques, futurs lycées techniques des villes comme Firminy, Rive-de-Gier, Saint-Chamond. Et il va y avoir, ce qui apparaît vraiment, c'est la rupture de 53, 54, 55. C'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. C'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Il faut modérer ces prises de conscience. on s'aperçoit des choses, ça ne veut pas dire qu'on a compris exactement ce qui se passait, mais en tout cas que l'avenir du bassin ne passait plus par les formes traditionnelles d'organisation du travail, que ce qu'il fallait maintenant, c'était des ingénieurs, c'était des cadres, c'était des techniciens supérieurs. Et du coup, 54-55, on commence à réfléchir à créer de nouvelles écoles. C'est ce qui va donner quelques années plus tard le CIPL, avec Hauptmann, qui va être son principal moteur.
Et l'ENISE.
Et qui va donc être à l'origine de la création de l'ENISE. Alors, pour situer, c'est marrant aussi, de manière anecdotique, mais Hauptmann et Queneau sont l'un pour l'autre de la belle famille. Un fils Hauptmann est marié avec une fille Queneau. Donc, ce sont des gens qui se connaissent, c'est un petit milieu, et c'est ces relations personnelles qui vont finalement permettre, de manière inachevée, mais de moderniser le bassin, notamment par la formation, notamment par le CRESAL aussi, qui va faire son rôle d'expertise économique, avec donc Queneau qui le crée à partir d'une entreprise qu'il avait lui-même fondée, où on retrouvait déjà André Garnier, qui sera aussi donc un des principaux moteurs du CRESAL par la suite. Et donc finalement, on a une... Je parlais de nébuleuse, mais c'est vraiment cette idée-là qui se met en place. C'est que finalement, on ne va pas vraiment moderniser l'équipement industriel, mais on va mettre en place des ressources, comme le CRESAL, comme le CIPL. On va mettre en place des idées dans la tête des décideurs économiques et politiques locaux, et ça va mettre beaucoup de temps à germer, mais ça ne sera pas suffisant pour prévenir la crise des années 70 et la désindustrialisation.
Et là, ce n'est pas 10 ans qu'on a pris de retard, mais c'est quasiment un siècle. Parce que c'est des choses qui auraient pu être créées, effectivement.
Ouais, mais ça, il faudrait beaucoup plus d'une émission pour...
Tant pis. Bon, Antoine, écoute, c'était très intéressant. Je pense que, effectivement, cette crise, bon, on est un petit peu d'accord là-dessus, mais on espère que les auditeurs auront compris que, pour nous, la crise est très ancienne dans la région stéphanoise. Alors, je voudrais me permettre de signaler d'abord que le 24 février à 14h, Maurice Bedouin présentera une conférence à l'Université pour tous dans laquelle il va étudier la comparaison entre les grèves de 47, 48 et 63, essayer d'évaluer leurs différences. Je voulais signaler aussi avec un petit peu d'avance peut-être que le 9 avril, le CEDMO, nos amis du CEDMO organisent un colloque sur l'union des femmes françaises dans la Loire. Et puis donc à tous les auditeurs que nous remercions de leur attention, on signalera qu'ils peuvent nous joindre en écrivant sur notre adresse mail gremos-2mos-2007@orange.fr. Et puis il y a le site, bien sûr, le site sur l'autre.net. Voilà, merci,
merci
et
bien.
À bientôt.
Juste Jean-Michel, tu ne voulais pas rappeler un autre rendez-vous, on a parlé de crise. Le Jabi était en crise il y a peu et le Grémos doit intervenir pour une pièce de théâtre concernant précisément la situation
de
l'entreprise.
Heureusement qu'on a la conscience professionnelle de notre ami Lionel. Donc c'est dans le cadre de l'association dont j'ai oublié le nom, mais c'est à l'Orme, c'est ça ?
C'est dans le cadre de la saison culturelle.
La saison culturelle de l'Orme, voilà.
Donc sur la salle de la Buire.
La salle de la Buire, donc c'est le 13 février, hein, c'est bien ça. Et d'ailleurs, la veille...
Le 13 mars.
Le février, oui, ça serait demain. Donc.
Le 13 mars. Donc, c'est dans un mois. Et le 12 mars, la veille, il y aura aussi la présentation d'un film sur Jaurès à l'Orme. Mais j'aurai l'occasion d'y être, d'ailleurs.
Voilà. Le 13 mars à la Buire, l'Orme, voilà. Vous intervenez avec une historienne qui a réalisé une thèse, me semble-t-il, aussi sur la question ouvrière.
Tout à fait.
Fanny Gallo.
Et il y aura Alban Graziotin
du Grémos.
Et Jean-Paul Bentière. Heureusement que tu es là, Lionel, merci.
On est presque exhaustif dans nos informations et dans l'agenda à venir.
Et un grand merci à Radio Dio.
Et on se retrouve
accueil.
Au mois prochain, jeudi de chaque mois.
Le mois prochain, jeudi à 12h, deuxième jeudi de... Donc ce sera le 12 mars.
Et bien voilà, rendez-vous est pris.
Merci.
Salut à tous et
toutes. Merci.